Voilà, je crois que c'est bon. Bon, est-ce que je peux commencer par vous demander votre nom et votre lieu et date de naissance?
Alors, mon nom c'est André Sénic.
Oui.
Je suis né à Paris, dans le 10e arrondissement,
Oui.
le 14 avril 1938.
Oui.
À l'époque, mon nom était Swissnik,
Oui.
Swissznik. Et parce que mes parents ne m'ont pas déclaré français à la naissance.
D'accord.
Ils auraient pu le faire, mes frères aînés ont été déclarés français, et moi, je ne l'ai pas été. Parce que mes parents voulaient se faire naturaliser en profitant de moi. Donc ils ont attendu, puis après il y a eu la guerre. Voilà.
D'accord.
Donc je suis né Swissnik, enfin Swiecznik, Zviets, la lumière
Oui.
polonais, et j'ai été donc naturalisé en 1947, je pense,
D'accord.
avec mes parents. Donc je suis né avant la guerre à Paris, de parents juifs polonais
Oui.
qui était venu en France au début des années 30, qui était politique, donc qui venait de familles tout à fait religieuses, mais qui ont totalement rompu,
Oui,
hein, et
oui.
qui étaient des sionistes d'extrême gauche.
D'accord.
Voilà. Donc j'ai été j'ai été mis très très petit, pour, je sais pas, vers 10 ans par là, dans un mouvement sioniste d'extrême gauche.
D'accord.
Alors, extrême gauche, ça veut dire que, à partir de 12 ans, on étudiait Marx, on levait le drapeau rouge et le drapeau d'Israël le matin, hein, dans les camps de vacances, et on apprenait le folklore révolutionnaire. Je pense que ce mouvement était en réalité un peu sous influence trotskiste, mais il ne le disait pas du tout. Donc,
C'était après la guerre ou pendant la guerre?
après la guerre,
Après
après la
la
guerre.
guerre.
Pendant la guerre, non. Pendant la guerre,
Non.
j'étais. Pendant, pendant, non, pendant la guerre, j'ai été. Mon père s'est engagé dans l'armée française en 39. Il a été fait prisonnier. Il s'est échappé. Il a été repris. Il a fini par s'échapper. Et moi, j'ai été mis avec mes frères dans une maison de la Croix-Rouge
Oui.
pour enfants de prisonniers.
D'accord.
Et comme j'y étais mis pour 15 jours. Et puis comme pendant que j'y étais, il y a eu la rafle du Vel'd'Hiv,
Oui.
ma mère a écrit au directeur de cette colonie de la Croix-Rouge en disant que s'il rendait mes frères et moi, on était morts. Donc il nous a gardés.
D'accord.
Donc je suis resté dans cette institution jusqu'à...
Toujours à Paris?
Non, 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 c'était au bord de la Loire, dans la Sarthe. Donc je suis resté jusqu'à la fin 43.
D'accord.
Et puis quand mon père s'est évadé, fin 43... On a rejoint mes parents dans la Sarthe aussi, sous un faux nom, on était cachés. Bon.
D'accord.
C'est une histoire banale. Et dans la famille, à moi, dans le noyau dur de ma famille, il n'y a pas eu de déportation. Le frère de mon père et sa femme ont été déportés, leurs enfants sont morts, mais moi j'ai eu mes deux parents et mes deux frères survécus. Donc.
Donc vous vous considérez comme un cas spécial ou exceptionnel,
Non,
quelque
parce que
chose?
75% des Juifs français n'ont pas été déportés, hein, il y en a eu 25%. Mais disons que moi, j'ai pas eu une espèce de drame, de tragédie. J'ai été séparé de mes parents pendant 2 ans, entre 4 ans et 6 ans.
Oui.
Mais après, c'était bien. Alors, comme c'était bien après,
Oui.
pour moi, ça m'a pas laissé de. Je m'estime pas du tout quelqu'un de martyrisé par la vie. Pas du tout.
D'accord.
Pas du tout.
D'accord.
Bon. Disons, c'est le. Pour moi, disons, hein, moi j'estime que j'ai eu une trajectoire plutôt heureuse.
Oui, d'accord.
Sans parents et en famille. Sans famille, en famille. Bon, pas mal. Alors. Et donc ensuite, alors après la guerre, donc j'ai rattrapé le retard que j'avais, j'étais un très bon élève, donc je suis rentré au lycée avec un an d'avance, premier dans le. C'était un concours. Bon, tout ça, c'était. Ça allait très bien. Et mes parents m'ont mis dans un mouvement de jeunesse sioniste, qui était celui de mon père. Donc, c'est là que j'ai eu la première imprégnation politique.
Et je comprends mal le sionisme de gauche,
D'extrême gauche.
d'extrême gauche. Donc
Ben,
c'était plutôt
c'était le type.
pro-Israël ou pro-marxiste ou les deux?
Non, les deux.
Les deux.
Sioniste, ça veut dire qu'il y a des gens qui voulaient l'État
Oui.
d'Israël.
Oui.
Et d'extrême gauche, ça veut dire que quand on avait 15 ans, il fallait partir vivre en kibboutz. Et vivre en kibboutz, ça veut dire vivre une vie communiste
C'est
intégrale.
que vous avez fait.
Non, bon, moi j'ai quitté avant, j'ai quitté à 14 ans, mais j'ai un de mes frères qui est parti pour un an et demi là-bas.
D'accord.
Mais le projet c'était aller en Israël, mais construire un État, enfin même pas un État socialiste, c'était avoir une vie parfaitement collective.
D'accord.
Bon. Et ce mouvement-là, et qui était donc proche des communistes, nous faisait participer aux grandes démonstrations qu'il y avait en France après la guerre. Le Parti communiste faisait une grande démonstration le 1er mai,
oui.
Le 14 juillet, et pour l'anniversaire de la Commune de Paris, au mur des fédérés. Et donc nous étions un groupe dans ce immense cortège.
Oh, d'accord.
Il y avait deux groupes sionistes, la Chomer HaTzahir et le Bororov. Moi j'étais au Bororov. Et on avait des chemises bleues, les uns avaient un lacet blanc, les autres avaient un lacet rouge, et on manifestait au sein du défilé du parti, sous des mots d'ordre, amitié judéo-arabe, ouvrez les portes de la Palestine, enfin bon. Il n'y avait pas de conflit apparent entre le mouvement communiste et le sionisme. Et donc on s'imprégnait de Marx et de ça, et en même temps du projet d'aller en Israël.
Et vos parents étaient dans le Parti communiste ?
Non, mes parents étaient sionistes.
Sionistes.
Mon père était. Et donc, ils étaient pas du tout communistes. Il faut bien. Enfin, pour comprendre cette époque, si c'est un autre problème. Enfin, les juifs à Paris, qui étaient des juifs ashkénazes, hein, des juifs qui venaient de Pologne, étaient très, très violemment divisés entre les communistes. Mm-hmm. Par exemple, mon beau-père était communiste, le père de ma femme était communiste. Ils considéraient mon père comme une chemise brune, ils disaient. Hein. Alors, mon père était marxiste et tout. Bon. Alors, donc, il y avait les communistes qui étaient anti-israéliens,
oui.
Il y avait les sionistes de droite, il y avait les sionistes de gauche, et il y avait le Bund. Le Bund qui est le.
Oui, oui, oui.
Bon, voilà. Alors, c'était très, très, très fortement. L'hostilité était très grande. Bon. Donc, moi, j'étais dans ce mouvement sioniste, et il fallait choisir avant 15 ans de partir en Israël. Oui. Et à 14 ans, un copain et moi, on a eu une grande crise de conscience. On se disait, on est des révolutionnaires, on est des marxistes, où est notre place? Alors, bon, et à 14 ans, c'était pas trop facile. Et donc, on demandait aux dirigeants de cette organisation sioniste, et ils refusaient de répondre. On leur disait, qu'est-ce que disent les communistes du sionisme? Ils refusaient de répondre. Donc, on a passé un an à avoir mal à la tête. Il y avait d'autres motivations qui nous ont déterminés, en réalité.
Oui.
Parce qu'on n'avait peut-être pas envie de quitter notre famille, tout simplement. Hein,
oui.
Et de quitter une vie... Mais en tout cas, on a décidé de quitter le mouvement sioniste à 14 ans, mon copain et moi, et d'adhérer à la jeunesse communiste.
Et comment il s'appelait, votre copain ?
Il s'appelait Ralph, mais j'ai plus de nouvelles de lui depuis 30 ans.
D'accord.
40. Et parce que ça, c'était... On a quitté en décembre 52.
D'accord.
Décembre 52. Donc j'étais très politisé. D'accord ?
D'accord.
Très politisé à 14 ans. Très, très, très politisé.
Et c'est à ce moment-là que vous êtes rentré dans la jeunesse communiste ?
Et c'est à ce moment-là, en décembre 42, que j'ai quitté le mouvement sioniste et que je suis rentré à la jeunesse communiste, qui ne s'appelait pas encore jeunesse communiste, parce que ça, le nom communiste a été donné en 56. Et après, j'ai adhéré au Parti communiste en août 53.
Oui.
En août 53, après la mort de Staline et après les événements. Bon, voilà. Et donc, mais ça, c'était contre mes parents.
D'accord.
Parce que mon père était sioniste, ils ont fini par aller finir leur vie en Israël, et le fait d'être communiste et tout ça a fini par me mettre en opposition avec le sionisme, et pour mon père, c'était tout à fait tragique. Et
vous avez eu des disputes avec votre père ?
Oui, au moment de la guerre des six jours, oui. Oui, parce que bon, moi j'étais gauchiste, je sais pas quoi, et je prenais des positions intellectuelles comme ça, sans connaître, hein, donc plutôt en faveur des Palestiniens, quoi.
Mais vous parlez de la guerre des six jours, mais ici on est toujours en 53.
Oui, alors en 53.
Au moment où j'ai quitté. Des problèmes familiaux à cette époque-là.
Oui, ma mère n'était pas contente que je quitte. Ensuite, elle n'a pas été contente parce que je militais tellement. Que je commençais à abandonner mes études.
Oui.
Bon, donc elle m'a mis dans un internat pendant 2 ans pour pas que je puisse sortir et pour que je sois obligé de travailler. Donc
d'accord.
Elle m'a sauvé mes études. Non, mais il n'y avait pas de graves conflits idéologiques, hein, parce que ils admiraient le marxisme, ils admiraient le communisme, quoi. Mais en même temps, ils voulaient un État pour les Juifs, c'est tout. Bon. C'est-à-dire que c'est petit à petit que le fossé est devenu vraiment violent entre le mouvement communiste et puis le sionisme. D'accord. Mais au début, l'Union soviétique a accepté l'existence d'Israël. Tout ça. Bon, voilà. Alors, moi, je fais mes études.
Pour revenir à ces études, cet internat, c'était où ?
C'était à Sceaux, c'était au lycée La Canale.
Oui.
Donc, mais j'étais avant le bac, hein, j'étais
oui, d'accord.
petit. Et donc, je suis resté là-bas, mais je continuais à militer. Il y a pas de... C'est une passion, la passion politique.
Et vous avez des camarades de gauche au lycée ?
Au lycée, oui. Il y avait un cercle partout. Il y avait partout des cercles. Il y avait même les fils. Il y avait même un fils de Maurice Thorez qui était dans ce lycée.
Oui.
Et donc il y avait partout toujours des cercles de jeunes communistes. Hein.
Oui.
Et donc je militais toujours, mais au moins j'étais obligé de travailler puisque j'étais.
Mais c'était un milieu plutôt français classique.
Oui.
Ouais, ouais. Ou mélanger.
C'était les communistes. C'était
oui.
les communistes, bon. Chez les lycéens, et jusqu'à ce que j'arrive chez les étudiants, c'était des Français classiques, enfin les communistes. Hein, il y avait quand même, après la guerre, il y avait quand même 30% de communistes en France.
Hein, oui, enfin, quand je dis classique, je veux dire plutôt laïque.
Pas juif. Oui, pas juif. Enfin. Ouais. Non, mais ça n'existait pas, on ne parlait jamais.
Oui.
On parlait jamais, juif, pas juif, on ne parlait jamais de ça. On ne parlait jamais. Et après, quand je suis devenu étudiant, aux étudiants communistes, il y avait une grande proportion de juifs, quand même.
Oui.
Aux étudiants communistes.
Oui.
Mais on n'en parlait jamais. Entre nous, on n'en parlait jamais.
Comment ça s'explique, cette proportion de juifs ?
Les juifs. Et les juifs sont. les juifs ont dirigé tout le mouvement révolutionnaire tout le temps.
C'est eux qui font. Oui, c'est pas moi qui l'a remarqué, mais comment ça s'explique ?
Comment ça s'explique ?
À votre avis ?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Hein. Bon, on pourrait dire peut-être qu'il y a un projet messianique et qu'on abandonne le messianisme religieux. Et sans le savoir, on le remplace par un messianisme politique. C'est une hypothèse.
Oui.
Hein? C'est une hypothèse. Ensuite, des raisons beaucoup plus fortes, c'est que on considère que l'antisémitisme est un produit d'une société injuste, et qu'en établissant une société juste, on liquidera aussi l'antisémitisme. Et puis il y avait alors. C'est avant la guerre, pour mes parents. Parce qu'en vérité, moi, j'ai hérité d'une mentalité révolutionnaire
oui.
de mon père, en réalité, qui était déjà révolutionnaire en Pologne, et le père de ma femme aussi était révolutionnaire en Pologne. Parce qu'après, j'ai cru que ça venait de la guerre, mais ça venait pas de la guerre.
Mais révolutionnaire zioniste.
Sioniste pour mon père, communiste oui. pour le père de ma femme, mais ils étaient D'accord. révolutionnaires en Pologne, dans les
D'accord.
années 30.
D'accord.
Ceux qui ont rompu avec le Moyen-Âge,
oui.
une grande partie d'entre eux ont adhéré, bon, ils ont créé le Bund a créé le Parti Social-Démocrate de Lénine, et les Juifs qui sont à l'origine de toute cette histoire. Bon. Et donc, après la guerre, moi, on pensait que c'était à cause de la guerre qu'on était communiste. Ce qui était pas vrai, puisque nos parents l'étaient déjà avant la guerre. Et là, l'idée que je trouve totalement absurde, c'était que puisque les nazis c'était l'extrême droite,
oui.
le pire ennemi c'était l'extrême gauche. Et donc, on était d'autant plus anti-nazis qu'on était à l'extrême gauche. Voilà.
D'accord. Mais à l'âge de 15-16 ans, quand vous parlez de messianisme, vous cherchez quelle sorte d'utopie, une utopie française ou une utopie mondiale ?
Mondiale.
Ou... Mondiale.
Mondiale.
Oui.
Par exemple, on avait des discussions avec mon copain, on avait 14 ans, hein, pour savoir qu'est-ce qu'on fait si le comité central de l'Union soviétique n'est pas d'accord avec Staline, avec qui on est d'accord ? Voilà. Et les problèmes qu'on avait à 14 ans.
Oui.
Et alors, mais on avait une vision mondiale, on était des staliniens.
Et vous êtes allé à Moscou ?
Et je suis allé à Moscou en 57, il y a eu un festival de la jeunesse, il y avait tous les deux ans. Hein. Et donc en 57, moi j'étais déjà étudiant, donc, et j'étais étudiant communiste, donc je suis allé à Moscou, et j'ai même porté la gerbe avec Henri Martin, qui était un héros de la guerre contre le Vietnam. On était deux à porter la gerbe pour aller au mausolée.
Oui.
Et donc il m'est arrivé une histoire pas drôle. je portais la gerbe, et il y avait tous les membres de la délégation française qui étaient membres du parti en même temps.
Oui.
Et étaient derrière nous. Et on rentre dans le mausolée de Lénine et Staline, les deux. Donc j'étais stalinien encore. Hein,
oui.
Et donc, dans un état d'extase, enfin de transe mystique, à con. Et donc on rentre, et derrière moi, j'entends une fille qui demande « Lequel des deux est Lénine ?» Et elle m'a cassé. Elle m'a cassé l'extase. Bon, voilà. Donc j'étais encore stalinien en 57, tu as dit l'Union soviétique.
Malgré les événements en Hongrie.
Au contraire, au moment... Pour la Hongrie, pour moi, à cause de mes parents, de toute façon, j'étais stalinien, j'avais pas envie de changer, hein, j'avais 18 ans, j'avais pas envie de changer, donc j'étais sourd et aveugle. Mais en plus, nos parents, à nous, les juifs polonais, disaient, les Polonais et les Hongrois sont des antisémites, c'est pas étonnant qu'ils se révoltent, c'est une révolte fasciste. Donc j'étais vraiment tout à fait persuadé que c'était une révolte fasciste. Et dans le lycée où j'étais à ce moment-là au lycée Janson de Sailly, qui est le 16e,
oui.
J'ai fait 6 adhésions à l'Union des étudiants communistes.
Ah oui.
En soutien à l'intervention soviétique en Hongrie. Donc j'étais
pas mal.
Réellement borné, stalinien et tout, quoi. Sans...
Des gens avec qui vous travaillez à l'époque, enfin des camarades politiques avec qui vous êtes resté longtemps ou juste à ce moment?
Ah non, mais c'est des gens qui ont adhéré à l'époque, je ne les ai pas revus après, sauf un qui est resté un ami. Mais c'est des gens qui étaient au lycée, qui étaient en classe préparationnaire aux grandes écoles, comme on dit ici,
oui.
Et qui ont adhéré parce que bon, mais c'est pas intéressant, mais c'était un lycée qui était très très à droite,
oui.
Très très à droite, et il y avait un petit peu une atmosphère de pas grand chose, mais un peu de persécution à l'égard des communistes, quoi.
D'accord. Pourquoi vous êtes allé là plutôt qu'à...
Parce que le professeur de philosophie de la classe terminale était communiste, Cavinck. Ouais. Et donc, je voulais avoir un prof marxiste. Et donc, j'ai réussi à aller là-bas. Et c'est lui qui a eu Poprenne, Lionel Jospin l'année d'après moi.
Ah ouais, d'accord.
Le même. Bon. Et donc, j'étais allé... J'étais vraiment communiste dans toute mon existence. Quoi.
Et vous militez dans les étudiants, dans l'Union étudiante communiste
À la création. En 1956,
oui.
Je suis au congrès qui crée l'Union des étudiants communistes. Et après, je deviens dirigeant de ce qu'on appelait ceux qui étaient dans les classes préparatoires aux grandes écoles.
Oui.
Donc, j'étais secrétaire du secteur des grandes écoles. Et après, j'étais au Bureau national. Et après, j'étais rédacteur en chef du journal, de Clarté.
Oui.
Mais je suis devenu rédacteur en chef de Clarté au moment où on a tourné notre veste. L'Union des étudiants communistes.
Oui.
Qui avait été... C'était la seule qui existait. Hein. Il n'y avait pas d'Union des étudiants communistes dans le monde. Comme organisation indépendante. Les étudiants communistes faisaient partie de la jeunesse communiste en Italie, par exemple. D'ailleurs. Nous étions la seule... Le parti avait créé en France une organisation indépendante des étudiants.
Mais tout à fait indépendante ?
Non. Mais autonome, disons. Oui. On avait des congrès, on élisait notre direction, et il y avait quelqu'un qui était l'œil du parti.
Oui.
Donc, qui était le secrétaire administratif, qui était l'œil du parti. Bon. Et puis... Quand il y a eu le 20e congrès a été l'occasion pour le parti italien de devenir un peu anti-stalinien. Le parti communiste italien a influencé des dirigeants français qui étaient au bureau politique, Laurent Casanova, Marcel Servin. Ces dirigeants français nous ont influencés.
Oui.
Et donc, c'est pas du tout par un travail personnel de prise de conscience ou de lucidité, simplement... Toute la direction des étudiants communistes,
oui.
À l'unanimité, s'est retournée et est passée du stalinisme intégral,
oui.
Sans état d'âme, à un anticommunisme viscéral.
Enfin, un anticommunisme, oui,
un anti-stalinisme communiste.
Oui.
Ouais. Toujours
parce
communiste.
Que votre point de vue, en gros, c'était quoi?
Eh ben, c'était Khrouchtchev, c'est la Renaissance.
Oui.
Khrouchtchev, c'est on va liquider le stalinisme, et enfin, le socialisme va être merveilleux. Et nous faisons partie de ce mouvement, et en plus, toujours à un niveau plus inconscient, disons, une nouvelle génération qui prenait le pouvoir. Quoi.
D'accord.
On se disait pas ça du tout, on était tout à fait dans le dévouement, mais si j'analyse avec du recul, c'était aussi un conflit avec le père, disons de certaine manière.
Hein. Voilà.
Parce que on avait déclaré la guerre à la direction du parti français, mais c'était une guerre, c'est-à-dire...
Une guerre civile.
On les haïssait.
On
les haïssait. Et on disait, ce sont des assassins, des chiens, etc. Parce que tout d'un coup, on venait d'admettre ce qu'on n'avait jamais voulu entendre. C'est-à-dire que oui, il y avait des camps de concentration en Union soviétique, tout ça. Toute l'horreur. Tout d'un coup, on l'admet. Donc, ça se retourne. Quoi.
Et là, tous ces étudiants communistes pensaient comme vous?
Alors, au début, de proche en proche, on parlait, et puis les gens faisaient pareil que nous. Quoi. Ça prenait 2 minutes. Ça prenait 2 minutes. C'est-à-dire comme si l'inconscient remontait, et hop, c'est « mais oui, bien sûr, tout ça, on l'avait toujours su ». Et donc, pendant 2-3 ans, on a été majoritaire.
Oui.
Il y a eu 2-3 ans de gloire de cette équipe qu'on appelait les Italiens.
Oui.
Notre surnom, c'est les Italiens, Crucioviens, bon, mais surtout les Italiens. Et puis, petit à petit, il y avait quand même une contradiction dans le fait d'être communiste et d'être contre le parti. On est devenu minoritaire parce qu'il y a eu, il y a eu des gens qui sont devenus maoïstes ou pré-maoïstes. Il y a eu des gens qui étaient trotskistes. Et puis, il y a eu des gens qui ont adhéré, des nouveaux adhérents qui adhéraient sur la ligne du parti. Et donc, à la fin, on a été battu en 65.
Oui.
Et là, on était complètement, totalement minoritaire. C'était fini, quoi. Mais on avait quand même bousillé une génération.
Oui.
Le parti avait perdu une génération.
Et vous pouvez nommer vos camarades à l'époque?
Oui, bah, les gens qui dirigeaient les étudiants communistes étaient Rebrieux, Forner, Pierre Kahne, Depaquy, Chalit. Il y avait aussi des gens comme Bernard Kouchner, Roland Castro, qui sont des gens un peu plus connus.
Oui.
Hein, et bon, voilà, c'était des... Bon, parmi eux sont Serge Julie avait travaillé un peu à Clarté aussi.
Oui.
Moi, je parle des gens connus, quoi. Hein.
Oui.
Mais
qu'est-ce qui s'est passé après votre expulsion?
On n'a pas été expulsé, on a perdu. On a perdu, c'est-à-dire bon.
Donc vous avez quitté.
On a quitté, et le parti a pris le pouvoir. Après, il y a eu de nouvelles crises. Après, les gens qui nous avaient chassés ont fait la même chose que nous. Ils se sont aussi retournés, mais un peu plus tard. Et nous n'avons pas vraiment. On a essayé de faire un petit groupe, justement, en même temps que les jeunesses étudiantes chrétiennes qui étaient en crise aussi.
Oui.
Et en même temps que les protestants qui étaient en crise aussi.
Hein. Oui.
Donc on a fait un petit groupe, mais qui n'a pas eu une grande activité, qui était le centre révolutionnaire d'intervention et de recherche. Bon, en vérité, on n'avait plus tellement envie de faire de l'activisme politique.
Non.
Et donc on s'est mis... un très petit groupe hein, de gens anciens des étudiants communistes. Alors là, on était un très petit groupe. On s'est mis plutôt à réfléchir, à relire Marx, enfin, ou à lire Marx, et à voir sur quel point on devait critiquer le marxisme, etc.
Et ces chrétiens avec qui vous avez travaillé, c'était qui?
Alors c'était... les noms connus, il y avait Henri Nallet.
Oui.
Hein, parmi les protestants, il y avait Bobéro, qui est un type important en France.
Oui.
Ouais. Et il y avait un type aussi, il y avait un type qui devait s'appeler Villain et qui dirigeait la jeunesse agricole chrétienne.
Oui.
Ça, c'était des gens extrêmement sympathiques, extrêmement ouverts. Hein. Mais bon, on n'avait pas, on s'est croisés quoi, simplement.
Mais comment vous êtes croisés? Parce que vous étiez dans des milieux étanches, non?
On était étudiants.
Oui, d'accord.
Et à une époque où tout le monde était au même endroit. C'est-à-dire qu'il n'y avait que la Sorbonne. Il n'y avait pas toutes les facs qu'il y a aujourd'hui.
D'accord.
Dans les années 60, tout le monde était dans la cour de la Sorbonne.
D'accord.
Donc on se connaissait. Et puis on se fréquentait à l'UNEF, au syndicat étudiant.
D'accord.
Bon. Et puis, comment on les a connus, je n'ai pas de souvenirs, je ne sais pas. Mais enfin, il n'y avait rien de mystérieux à ce qu'on les voit, puisqu'on était au syndicat ensemble et dans les études ensemble. Et la crise était concomitante, c'était la même crise. Et en particulier, la crise a été assez profonde chez les protestants.
D'accord. Comment ça? Parce que c'est une église plus libérale, non?
C'est une église libérale, mais ils étaient beaucoup plus radicaux. L'alliance des équipes unionistes, hein, c'était le nom de l'organisation protestante, eux, ils étaient sous l'influence des situationnistes.
Ah, d'accord.
Et donc, c'est-à-dire aux antipodes du discours gauchiste, trotskiste, etc. Aux antipodes, hein, carrément. Et Et donc moi et mes élèves, on a été assez influencés par ça.
Et qu'est-ce que vous entendez, est-ce que vous entendiez par le situationnisme?
Alors, les situs, c'était un petit groupe de 13 personnes,
oui,
hein, qui produisaient des textes, et il n'y avait pas d'adhérents, il n'y avait rien. Mais ils avaient une aura extraordinaire, parce que ils avaient une conception de la Révolution qui était la jonction du surréalisme et du marxisme, du jeune Marx.
Oui.
Donc c'était la Révolution dans le désir. Et c'était la subversion généralisée. Ils avaient des mots d'ordre,
oui,
mais vraiment marrants, quoi. Par exemple, ne travaillez jamais. Hein?
Oui.
Jouir sans entrave, vivre sans temps mort et jouir sans entrave. Mm-hmm. C'est l'absolu, c'est absolu. Voilà, ouais, hein. Et donc, le refus des organisations politiques, le refus des dirigeants, le refus de toute autorité, la subversion généralisée de la vie, quoi, au nom de la transgression, etc.
D'accord.
Et donc, ça, c'est un discours tout à fait rafraîchissant par rapport au discours marxiste pour les pauvres, les salaires, tout ça, dont on était déjà très fatigué.
Et pour vous, c'était des slogans politiques ou des slogans de
vie,
de vie, quoi.
C'était des slogans de vie. C'est-à-dire que là, à partir du moment où moi j'ai quitté l'UEC en 65, après j'ai milité un petit peu à un moment donné encore, bon, à ma grande honte, au Comité Vietnam.
Oui.
Comité Vietnam national. Il y avait deux Comités Vietnam en France avant 68. Les Chinois, c'était le Comité Vietnam de base.
Oui.
Et les autres, dont les trotskistes et nous, Comité Vietnam National.
Oui.
Alors moi, j'étais un peu à la direction du Comité Vietnam National, très anti-guerre du Vietnam, très
oui,
anti-américain, bon.
Mais pourquoi à votre honte?
Parce qu'un jour, j'étais avec Kouchner, et on lançait des cailloux sur l'ambassade des États-Unis à Paris. Et je dis, à ma grande honte, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il fallait combattre le communisme. Je pense ça aujourd'hui. Je suis devenu très anticommuniste.
Très anticommuniste.
Très.
Depuis quel moment?
J'étais anti-stalinien à partir de 61.
Oui.
Et je suis resté donc révolutionnaire pendant pas mal d'années à chercher s'il y avait un type de révolution qui ne conduirait pas au stalinisme.
Oui.
Bon. Et puis finalement, je suis devenu vraiment résolument anticommuniste. Oui, dans les années 70, voilà. Enfin, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris beaucoup de temps pour intellectuellement, parce que je suis intellectuellement devenu vraiment libéral.
Oui.
De A jusqu'à Z.
Oui. Voilà.
C'est-à-dire, je suis contre la révolution. Je suis pour la révolution française de 89.
Oui.
Je suis contre la révolution française de 93. Je suis contre la révolution bolchevique, je suis contre la révolution chinoise, je suis contre toutes ces révolutions.
Contre la Commune de Paris?
La Commune de Paris n'était pas marxiste, non. La Commune de Paris, Marx a inventé qu'elle était marxiste, mais elle n'était pas du tout marxiste.
Et pour revenir à ce changement, on dit souvent que la publication du livre sur le goulag de Solzhenitsyn était un point tournant pour beaucoup de gens.
Ça a été un point tournant pour Glucksmann, pour des gens comme ça.
Oui. Hein,
avec qui je suis ami, que je vois souvent. Oui, à ce moment-là, on était déjà... Mais le livre de Solzhenitsyn, c'était anti-stalinien.
Oui.
Et donc, j'étais déjà tout à fait d'accord avec ça. Hein.
Oui.
Mais par contre, passer du stalinisme à la critique de l'idée communiste, ça m'a pris beaucoup plus de temps. En 68, par exemple, on était anti-stalinien.
Oui.
Complètement anti-stalinien, mais on était encore dans la mythologie révolutionnaire.
D'accord.
Le discours était encore un discours marxiste. Le pouvoir aux travailleurs, aucune autorité, aucune exploitation, etc. C'était un mouvement qui n'était pas du tout marxiste, mais qui était dans un discours marxiste.
D'accord. Mais il n'y a rien en particulier qui a changé votre esprit?
Non, il y a rien. Non, c'est une dérive continue, disons. C'est une dérive absolument continue. Il n'y a pas eu un événement. Non, mais je suis devenu vraiment violemment anticommuniste. Parce que tout d'un coup, j'ai relu des... Par exemple, mon frère, qui avait été communiste avant moi, avait ramené un compte-rendu du procès de Prague, procès de Reich, en Tchécoslovaquie. La sténotypie du procès, oui, à l'époque.
Oui. Oui.
Et je l'ai relu quand je suis devenu anti-stalinien au début des années 60. Et là, j'ai vu que c'était un régime abominable où on demandait, chaque fois, le procureur demandait à l'accusé, vous dites que vous vous appelez Cheny, mais quel est votre vrai nom? Le type disait Rosenblum, j'ai pas d'autres questions à poser. Le suivant, c'était, vous dites que vous vous appelez Chalaï, quel est votre vrai nom? Machin, pareil, c'était d'un coup, je découvrais que c'était des assassins, des antisémites. Bon. Et donc, mais j'ai eu encore de la sympathie pour Castro au début.
Oui.
Voilà, mais tout à fait au début. Après, en 63, je suis allé en Yougoslavie avec Bernard Kouchner, au nom des étudiants communistes, et on avait de la sympathie pour le modèle yougoslave à ce moment-là, l'autogestion, tout ça.
Oui.
Et
oui.
Puis sur place, on a vu que c'était tout à fait. Et quand on est sorti de Yougoslavie. Et quand on est sorti de Yougoslavie en voiture et qu'on est arrivé à la station d'essence italienne Super Corte Maggiore et qu'on a vu que les gens étaient joyeux, libres, etc., on voyait qu'il y avait quand même un monde dans lequel on n'avait absolument pas du tout envie de vivre et un monde dans lequel on pouvait quand même rigoler.
C'était dans quelle année ?
63.
Donc déjà, vous avez
Ah ben, on était déjà très antistaliniens et on était en train d'abandonner les substituts.
Hein? Oui.
Mais par exemple, en 68, on était quand même révolutionnaire. Moi, j'étais ultra-gauchiste en 68. Mais pas sur le mode
communiste. Racontez-moi votre 68.
Alors, moi, donc, j'étais nommé à Paris, dans un lycée à Paris. Avant, j'étais un an.
Parce que vous avez fait l'école normale.
Non, j'ai pas fait l'école normale, non. J'ai préparé l'école normale, mais...
Vous avez passé le concours?
J'ai passé les concours, mais j'ai eu deux fois 1 sur 40 en thème latin. Donc, j'ai jamais... le thème latin m'a barré. Mais donc, j'ai pas fait la rue d'une, non.
D'accord.
Mais j'avais les classes préparatoires.
D'accord.
Bon, d'accord. Donc, je pouvais avoir l'agrégation, puisque j'avais fait les classes préparatoires qui servent à... Donc, j'ai passé l'agrégation, et j'ai été nommé à Paris en 67.
D'accord.
67.
Oui.
Et quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit, la politique, c'est fini, quoi. C'est terminé, c'est derrière nous... D'abord, personne ne s'intéressait à la politique. Hein. C'était calme plat. La France s'ennuie. Il se passe
67.
67.
Ah bon ?
Ah oui. J'ai écrit deux articles pour la revue du père de Bernard Kouchner. Il avait une revue pour les médecins, payée par les labos. Et j'ai fait des articles de philosophie, quoi, sur le structuralisme, enfin, dans lequel je disais que la politique, c'était fini, quoi. Bon. Et c'est ce que je pensais. Donc, j'avais plus aucune. Aucun engagement politique.
Oui.
Et alors, 68 est arrivé. Les élèves de mon lycée, qui étaient absolument apolitiques, se sont découverts révolutionnaires. On chantait l'International. Je ne sais pas où ils l'avaient entendu, je ne sais pas où ils l'avaient appris.
Oui.
Et Cohn-Bendit, pour moi, c'était génial.
Oui.
Parce que c'était la révolution, mais anarchisante. Hein, anticommuniste, oui. il parlait de la crapule stalinienne,
oui.
Donc et il était drôle, et il était insolent, et les thèmes c'était pas la misère, etc. Et donc je me suis retrouvé absolument en 68, mais j'ai eu aucun rôle dirigeant.
C'est-à-dire,
dans le lycée où j'étais, j'allais avec les élèves dans les manifs, tout ça, mais j'ai pas joué de rôle spécial, alors que par exemple Chalit, qui avait été un ancien de mon équipe,
oui.
C'est lui qui a fait le journal Action, le journal du mouvement étudiant. Mais moi, j'allais partout, j'allais à toutes les manifs, j'étais sur les barricades, tout ça. C'était formidable. C'était vraiment...
Oui.
C'était l'héroïsme sans risque, quoi.
Mais votre grand moment, c'était l'année après ?
Et après, alors bon, là, c'était le grand moment comme tout le monde. Et l'année d'après, un élève de mon lycée, qui était en seconde, moi j'avais pas d'élève de seconde parce qu'on fait de la philosophie en terminale, a été dans un stage des protestants de l'Union, par mon entremise. Et il est revenu situationniste, pro-situationniste. Parce qu'il n'était pas,
oui.
Pouvait pas adhérer à l'international situationniste qui comportait que 13 membres. Donc, et il a entraîné une énorme proportion des élèves dans un mouvement comme ça, surréaliste.
Quel était son nom ?
Lui, il s'appelait Gilles Baudry. Et il est mort. Il est mort asphyxié, alors qu'il avait toujours eu l'angoisse de l'asphyxie. Il vivait avec une psychanalyste et il y a eu une fuite de gaz et ils sont morts. Mais lui était en seconde.
Oui.
Il écrivait des textes absolument géniaux, Oui. Mais personne ne savait que c'était lui, hein, parce qu'il était un beau petit gros. Bon. Et les élèves se sont mis à déconner, disons, hein, à empêcher le lycée de fonctionner complètement.
Oui.
Sur le thème de la transgression des limites, des interdits, de tout ça. Mais c'était un aspect provocateur et ludique.
Oui.
Mais malgré tout, le lycée était hors d'état de fonctionner. Et les parents et l'administration qui étaient prêts à, ils étaient prêts à donner aux élèves ce qu'ils voulaient, mais les élèves ne voulaient rien. Les élèves voulaient repeindre l'intérieur des tuyaux des WC, hein, un trou dans le bureau du proviseur, un baobab pour mettre dans le trou. Enfin, c'était ça leur revendication. Donc c'était absolument. Ils collaient des pétards dans les couloirs pour que chacun puisse les allumer quand il veut. Parce qu'il fallait absolument pas. Hein, le premier mot d'ordre qu'ils ont écrit dans le lycée, c'était « au cul les avant-gardes ».
Oui.
Donc c'était absolument anti-léniniste, anti-marxiste, anti-organisation. Hein. Il n'y avait pas de groupuscule là-dedans.
Et quel était votre rôle là-dedans ?
Alors moi, j'étais leur caution, c'est-à-dire que j'étais l'adulte qui leur disait qu'ils avaient raison.
Oui. Hein.
J'étais considéré par l'administration comme l'inspirateur, comme le... Bon. Et en réalité, ils allaient beaucoup plus vite que moi. Mais moi, je les suivais. C'est vrai que je les cautionnais, quoi. Hein. Et alors, il y a eu beaucoup d'incidents. J'ai fini par recevoir des gifles du mari de la proviseure parce qu'il croyait que c'est moi qui avait suggéré de l'insulter. Enfin bon, peu importe, mais... Il y a eu des scènes très violentes, ils ont appelé les flics sont entrés dans le lycée, ils couraient après les élèves se sont réfugiés dans des classes, il y a des professeurs qui ont montré aux flics quels étaient les élèves qui s'étaient réfugiés. Alors après, il y a eu un tract absolument surréaliste qui avait été écrit par ce Gilles Baudry, qui prenait chaque professeur qui avait dénoncé les élèves et qui en faisait un portrait très insolent. Bon, c'était le... Enfin, zéro de conduite, si vous voulez. C'était le... Et donc, il y a eu énormément de dépression nerveuse chez les profs. L'approviseur a pris sa retraite anticipée. Bon, ça a été une destruction, mais sur un mode transgressif, oui. Ludique, quoi. Et après, donc ça a duré un an.
Et qu'est-ce qui vous est arrivé aussi ?
Alors, bon, moi j'étais là. Et ben, moi, je dis aux élèves, moi, je suis prof, je suis payé. Donc moi, je fais cours, moi. Vous faites ce que vous voulez, je vous donne pas tort, je vous donne raison, mais moi, je suis pas élève, moi, je suis prof. Donc, je faisais cours, et puis, ceux qui voulaient écouter, écoutaient, ceux qui voulaient... Oui.
Mais vous avez été sanctionné.
Alors, alors pendant l'année, l'approviseur du lycée demandait que je sois viré, enfin bon, et alors, il y a eu un inspecteur qui est venu, mais l'inspecteur, je l'avais eu comme professeur en Cagne, en classe préparatoire, et c'est un inspecteur philo tout à fait un protestant aussi. Tout à fait génial, très gentil, qui a fait un rapport très, très favorable et qui m'a proposé une classe préparatoire aux grandes écoles, de devenir prof en prépa, en Cagne.
À quel lycée ?
Non, il m'a proposé, je lui ai dit non, je ne peux pas. Je vais pas
Ah bon, vous êtes resté là ?
Je suis resté là, je lui ai dit je ne vais pas être solidaire des élèves qui foutent le bordel,
oui.
et puis en profiter pour avoir une promotion comme font les mecs qui font du syndicalisme et qui se retrouvent. Non. Donc ça, c'était pas possible. Donc, je suis resté là, et à la rentrée, donc je suis resté un an,
hein, oui.
dans des turbulences et des violences et tout ça. Bon, il y a eu des coups d'échanger avec les profs, bon, c'était très très violent. Et puis alors à la rentrée, donc en septembre 69, alors cette fois-ci, on a envoyé un inspecteur qui n'était plus un inspecteur de philosophie, qui était un inspecteur de l'administration, disons.
Oui.
Et là, donc, le troisième jour, j'ai été suspendu. Alors, le prétexte, bon, ça n'avait pas beaucoup d'importance, mais il y avait trois prétextes. Parce qu'il ne pouvait pas me suspendre pour ce que j'avais fait l'année d'avant.
D'accord.
Parce qu'il y avait eu les élections et amnistie.
D'accord.
Donc il fallait qu'ils me suspendent pour les trois jours de la rentrée. Bon, pas fastoche. Alors, premier motif, j'avais accepté dans ma classe des élèves qui étaient d'autres classes. Parce que j'étais une vedette à l'époque. Donc il y a des élèves qui voulaient écouter le prof, machin. Bon. Donc j'avais accepté 4-5 élèves dans la classe. Alors. Deuxièmement, J'avais dit aux élèves, est-ce que vous voulez travailler? Parce que l'an dernier, ça a été génial, mais il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas eu le bac. Et moi, j'ai ma profession, je ne veux pas vous faire prendre de risques.
Oui.
Et donc, vous votez. Est-ce que vous déconnez ou est-ce qu'on travaille? Ils ont voté qu'on travaillait.
D'accord.
Mais j'avais posé la question. Et troisièmement, j'aurais dit, il y a plusieurs profs de philo dans le lycée, vous ne m'avez pas choisi, vous avez le droit de savoir qui je suis, donc je leur ai lu le rapport que la proviseure avait écrit sur moi. donc, voilà, les trois fautes professionnelles qui ont servi de prétexte pour me suspendre. Et donc j'étais le premier prof suspendu. Il y en a eu plusieurs après, des profs de philo qui ont été suspendus, mais moi j'étais le premier prof suspendu. Alors, la suspension, c'est une mesure, c'est pour les agrégés, c'est un fonctionnaire en France, c'est pas facile de le virer. Hein. Ouais. Alors, donc, suspendu avec traitement.
Bon, combien de temps?
Alors, j'ai d'abord été suspendu, et puis avec traitement, bon, c'est une mesure conservatoire, donc il n'y a pas de limite. Et puis, au bout de 6 mois, je suis passé devant le Conseil supérieur de l'éducation nationale.
Oui.
À la Sorbonne, bon, machin. Alors la première fois, il y avait eu un meeting de soutien pour les profs suspendus et j'avais dit, j'irai pas à ce jugement si tout le monde ne peut pas parler. Enfin bon, j'ai fait un cirque. Donc ça a été annulé, le jour prévu a été annulé et puis ça a été une autre fois. Et là, et moi je voulais pas me défendre sur le plan du fonctionnaire.
Oui.
J'estimais que j'avais largement agressé l'institution et je comprenais très bien. Qu'elle se défende.
Oui.
Mais mon avocate n'a pas voulu. Elle a voulu. Bon. Moi, je leur ai dit simplement, du point de vue de la légalité, vous ne pouvez pas me suspendre parce que ce que j'ai fait pendant les 3 jours, ça ne justifie pas une suspension.
D'accord. Bon.
Et donc, j'ai été suspendu à ce moment-là à 1 an. J'étais condamné à 1 an de suspension, dont 6 mois avec traitement, ceux que j'avais touchés,
oui.
Et 6 mois sans traitement.
D'accord.
Voilà. Donc, j'étais suspendu pendant 1 an. Et puis après, ils ne savaient pas quoi faire de moi, parce qu'ils pensaient que j'étais extraordinairement dangereux. Ils ne se rendaient pas compte que c'était un moment, hein, et que les élèves n'étaient plus les mêmes. 2 ans après, les élèves n'étaient plus les mêmes, mais bon. Et donc, ils ne savaient pas quoi faire de moi, et donc ils m'ont mis à l'enseignement par correspondance.
D'accord.
Et donc je suis resté 14 ans.
14 ans ?
14 ans, jusqu'à ce que la gauche prenne le pouvoir en France, en 81. En 81, la gauche a pris le pouvoir, elle a estimé que les profs comme moi étaient les victimes de la répression, patronale et policière, de chômage et de misère, bam, bam, bam. Et donc, ils nous ont remis dans le circuit en 83.
Et qu'est-ce que vous avez eu comme boulot à cette époque?
Alors, quand j'étais en 83,
oui.
J'étais remis dans un lycée, normal,
à Paris,
au lycée Condorcet. Et puis après, 1 an au lycée Condorcet, puis après au lycée de Saint-Cloud. Ils devaient penser qu'au lycée de Saint-Cloud, les élèves étaient... n'étaient pas des révolutionnaires nés, donc je suis resté là-bas, je suis resté jusqu'à ma retraite, hein, au lycée de Saint-Cloud.
Mais à partir de 69, vous avez perdu vos contacts dans le milieu...
Il n'y avait plus de rapport avec les élèves.
Avec les élèves, mais aussi avec d'autres profs...
J'avais des contacts avec les gens que je connaissais, avec mes amis.
Oui.
Et c'était une époque où il y en a d'autres qui ont... J'ai donné mauvaise conscience à un certain nombre de profs de philo avec qui j'étais ami.
Oui.
Ils voulaient aussi être suspendus. Hein, parce que quand même, dans une période révolutionnaire, faut pas être le moins révolutionnaire. Donc j'ai quelques copains, Pierre Kahn, par exemple, qui s'est fait suspendre, et puis qui est devenu psychanalyste après, et puis Robert Hébrard, qui s'est fait suspendre, Claude Morali, qui s'est fait suspendre, bon, Daniel Kapp, il y en a un certain nombre qui se sont fait suspendre. Mais eux, ils se sont fait suspendre, d'ailleurs, ils ont agi. Hein. Moi, j'ai été accusé de ce que faisaient les élèves.
Oui.
Mais moi, j'avais rien fait, tandis qu'eux, ils ont été obligés de faire des conneries pour pouvoir être suspendus.
D'accord.
Voilà. Et puis d'autres, comme Birelovitch ou Forner, qui étaient profs à la fac et qui ont voulu démissionner pour ne pas rester des fonctionnaires en bourgeoisie, etc. Bon, donc, ils ont
Ils vous enviaient un peu?
Est-ce que je les enviais?
Non, ces profs-là, ils vous enviaient un peu.
Bah, ils m'enviaient parce que j'étais un héros, un révolutionnaire, une victime de la répression, tout ça. Et moi, je me sentais pas du tout victime. D'abord, j'estimais que vraiment, j'avais largement mérité que l'institution se défende.
Oui.
Bon. Ensuite, j'étais payé à rien faire. J'avais juste à rédiger des cours. Je corrigeais les copies des étudiants qui préparaient l'agrégation.
Oui.
Par correspondance.
D'accord.
Et le CAPES. Et je rédigeais des unités de valeur pour les élèves qui passaient leurs examens à Nanterre, les élèves par correspondance.
D'accord.
Donc j'avais très très peu de travail. Par exemple, je suis allé vivre un an aux États-Unis.
Oui.
Hein, sans que ça gêne mon travail pour l'enseignement par correspondance. Donc j'étais dans une cage dorée, j'étais bien, quoi.
Mais vous avez eu des approches d'autres mouvements ou d'autres réseaux pour vous recruter en tant qu'héros révolutionnaire?
Non, j'étais hors. Non. À ce moment-là, si vous voulez, à partir de 70, à partir de 69, la révolution, disons, la trajectoire après le situationnisme, c'était la musique pop, la drogue, les relations. Familiale bouleversée, etc., sexuelle bouleversée, c'était ça la thématique révolutionnaire.
Oui.
Et c'était plus du tout l'engagement dans des groupuscules. Plus du tout.
Donc cette révolution culturelle dont vous parlez est venue après?
Elle est venue à partir de après 68, oui. Après 68. C'était déjà ça,
oui.
L'année au lycée, c'était déjà,
oui, d'accord.
Ça. C'était,
oui,
déjà ça. Et après, on est resté là-dessus. C'est-à-dire que, bon, moi, après j'ai revu des copains, un peu plus jeunes que moi, qui étaient devenus maoïstes, qui s'étaient installés en usine, etc., qui avaient une vie dure, etc. Nous, c'est aucun rapport. Nous, c'était le LSD et la musique.
Hein. Vous aussi?
Oui.
Pourquoi pas?
Pardon. Ça n'a pas duré beaucoup d'années, hein, mais ça a duré 2-3 ans. Quelques voyages avec des gens, mais c'était une époque, l'époque, oui. C'était ça, quoi, hein, avec l'impression que on inventait, c'est-à-dire c'était pas juste à usage privé, c'est aussi, oui, qu'on inventait un nouveau mode de vie.
Oui.
C'était, disons, il y avait l'influence de Marcuse, pour moi, qui avait lu un peu de philo quand même.
Oui.
Il y avait un peu l'influence de Marcuse, hein, contre la répression sexuelle,
oui,
Eros et civilisation, tout ça, quoi.
Donc vous vous êtes défoulé un peu.
Et on sait. Oui, on s'est pas défoulé un peu, on s'est vraiment défoncé, quoi. Parce qu'on n'était pas très refoulé non plus, hein. Mais enfin, on était quand même, si. C'est amusant, quand on était aux étudiants communistes, et qu'on était antistaliniens, il y avait une vie énorme à l'époque de la lutte contre le parti, hein. C'était,
oui,
c'était très violent. C'était... Et puis tout le monde était aux étudiants communistes à cette époque-là. Tous ceux qui allaient faire... Bon. Mais on était, sur le plan sexuel, on était vraiment cathos. Et alors effectivement, après mai 68,
oui,
mai 68 n'avait rien à voir avec la sexualité, mais l'après mai 68, pour les gens de ma mouvance, disons, hein, ça a été une remise en question de ce mode de vie. Et il y en avait pour qui c'était bien, qui a réussi à le vivre,
oui.
Il y en avait pour qui c'était extraordinairement dangereux, qui se sont foutus en l'air. Parce que,
comment ça?
Parce que ils ont rompu, ils ont brisé leur couple, ils ont eu des aventures et ils prenaient du LSD et bon, ils maîtrisaient pas tout ça. C'était pas sans risque, quand même. Pas sans risque. Moi, ça allait très bien parce que moi j'étais marié,
oui,
j'avais des enfants, j'avais un revenu et j'avais pas envie de déconner avec mes enfants. Donc j'étais disons au milieu de gens qui vraiment déconnaient, hippies, enfin tout ce qu'on veut. Nous, on était quand même une famille bourgeoise, maintenue. Alors, ouverte, c'est-à-dire que les gens pouvaient habiter chez nous, c'était ouvert. Mais ma femme et moi, on ne s'est pas séparés et on n'a pas déconné avec les enfants.
Ouais.
Donc mes filles, quand elles sont interviewées en tant que filles de 68ards,
oui,
sont à peu près les seules qui ont un souvenir heureux. Les autres, c'est la tasse. Et... D'après ce qu'elles disent, en tout cas, elles ont un souvenir. Il y en a une qui a fait des émissions à la radio là-dessus, et puis une autre qui est passée dans une série là-dessus aussi. Mais pour beaucoup de gens, ça a été dur. Ben, c'est normal, quand on sort du cadre, hein, bon, c'est plus dur. Mais en tout cas, on était toujours politisés, c'est-à-dire on était toujours intéressés par la politique, naturellement.
Oui.
Hein. Mais adhérent à rien.
D'accord. Mais toujours avec les mêmes copains, les mêmes camarades
Oui, on a les...
qu'auparavant?
Oui, les anciens des étudiants communistes. Je suis toujours ami avec quelques anciens des étudiants communistes. Et puis j'ai retrouvé, à cause de mon évolution politique
Oui.
fâcheuse, j'ai retrouvé des gens qui venaient de la même, comme Glucksmann par exemple, mais qui lui avait été maoïste, on était séparés, et puis
Oui.
maintenant on se retrouve sur les mêmes positions.
Vous l'avez retrouvé quand?
Je l'ai retrouvé il y a 3-4 ans, à partir. C'était au moment de. C'était au moment de la Bosnie, je crois, au moment de. Parce que moi j'ai retrouvé Kouchner en 90.
Oui.
Enfin, j'étais copain avec lui, mais je ne le voyais pas. Et puis en 90, au moment enfin, avant la Bosnie, donc j'ai été un peu avec lui à ce moment-là. Et puis je soutiens toujours l'idée du droit d'ingérence, de ne pas laisser les peuples se faire exterminer par des États, que les États n'ont aucune légitimité, à mes yeux, s'ils ne sont pas élus démocratiquement. Bon, donc. À partir des années 90, on s'est remis un peu dans la politique, mais du côté de pour la Bosnie, pour le Kosovo, pour après et pour l'Irak, je fais partie du petit noyau de gens qui étaient favorables à l'intervention
Oui, d'accord.
américaine en Irak, à ce point-là. Voilà.
Avec qui?
Alors avec Glucksmann, avec d'autres gens qui
Oui.
sont dans une revue qui s'appelle le meilleur des mondes. Je vais vous montrer ça, si vous voulez.
Ne bougez pas parce que
Ah, mon truc, ah oui,
plus
donc
tard
je vous
peut-être.
montrerai après, voilà.
Oui.
Bon, donc là, il y a un petit groupe de
Oui.
gens qui tous viennent ou du
Oui.
maoïsme, ou du trotskisme, ou, comme moi, encore avant, du stalinisme, et qui ont, un peu comme les néocons, hein, un peu comme les néoconservateurs, quoi. C'est-à-dire des gens qui viennent de l'extrême gauche
Oui.
et qui ont adhéré absolument à
Et
ce.
vous caractérisez comment? Quel
Libéral, non,
libéral?
libéral et droit de l'homme.
D'accord.
Libéral, droit de l'homme. Voilà. Et donc, par exemple, je pourrais voter pour Tony Blair. Je pourrais, sans problème. Hein. Mais je ne peux pas voter pour Ségolène Royal.
D'accord. Pour revenir un peu sur la question du lycée, on parle souvent de 68 comme une révolte de génération, mais on peut dire qu'il y avait plusieurs générations qui se sont révoltées de manière différente, non?
Oui. C'est, bah, disons, la figure symbolique, c'est Cohn-Bendit.
Oui.
Bon, Cohn-Bendit, il a plus que 20 ans, mais il a moins de 30 ans.
Oui.
Voilà. Moi, je pense que c'est ça, les leaders. Ce sont des gens qui ont fait leurs armes à propos du Vietnam ou avec la crise du communisme, hein,
Oui.
et c'est eux qui entraînent le mouvement. Après. Des gens comme moi, bon, j'avais 2-3 ans de plus, quoi, disons, hein, que je sais pas quel âge avait Cohn-Bendit, mais enfin 4-5 ans de plus. Mais nous, on replonge, mais on compte pas beaucoup.
Oui.
On est quelques alliés, des trentenaires qui sont alliés, mais évidemment, ça a surtout incendié les gens de 18-20 ans. Et ça les a incendiés pour beaucoup dans toute leur vie après. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont restés dans l'idée qu'ils avaient vécu, enfin pour beaucoup, disons, hein, qu'ils avaient vécu un moment merveilleux
Oui.
et qu'il ne fallait pas se renier. Donc, il y en a pas mal qui n'ont pas voulu réussir socialement à cause de ce mouvement. Bon, et donc, maintenant, il y en a peut-être moins, mais enfin, il y a eu pendant très longtemps ce qu'on appelait les ex-68ards.
Oui.
Voilà. Mais c'est une révolte d'une génération, oui. C'est une révolte d'une époque, pour moi, d'une époque,
Oui.
qui doit sortir de la France un peu stricte et sclérosée sur le plan culturel. Et cette révolte d'une époque, elle est portée par la jeune génération, ce qui est normal.
Et vous dites que tous les 10 ans,
On a un regard différent.
on a un regard différent sur cette époque.
Ouais.
Et est-ce que votre regard sur cette époque a changé? Et comment?
Alors, ce qui a changé, bon, Moi, je ne fais pas partie des gens qui rejettent mai 68. Hein. Je pense que c'était une crise dans laquelle moi-même j'ai dit énormément de conneries. Il n'y a aucun doute. C'était irresponsable, c'était ludique. Mais, bon, en tout cas c'était extrêmement joyeux et agréable. Et simplement, aujourd'hui, je pense qu'on est obligé de rectifier. C'est ça que j'aurais peut-être pas dit il y a 10 ans.
Oui.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je comprends que l'anti-autoritarisme, ça va pas.
Ah bon?
Dire, il est, enfin, l'anti-autorité, je veux dire. Hein.
Oui.
Dire, il est interdit d'interdire, pour moi, c'est une stupidité extraordinaire. Enfin, sauf si c'est un mot d'ordre poétique.
Oui.
Sauf si c'est comme ça. Mais si ça imprègne vraiment les rapports sociaux, les rapports familiaux, c'est complètement absurde, quoi. Donc, là, je suis d'accord que les anciens 68ards, comme Bendit, doivent dire ce que j'ai dit à cette époque-là, sur tel et tel point, c'est stupide.
Oui.
Voilà, ça, je pense qu'il faut un réexamen des idées simplistes et radicales. Non. Des idées radicales, c'est-à-dire... moi, ce que je trouve formidable dans mai 68, c'est le mot « contestation ».
Oui.
La contestation, c'est remise en question des rapports, et après, on remet en question. C'est-à-dire, de quel droit quelqu'un est prof, de quelqu'un a l'autorité sur les élèves, on a le droit de les réexaminer.
Bon. Oui.
Mais la contestation, si elle devient, comme moi-même je l'ai fait, dissolution, etc., c'est le nihilisme. Bon, donc ça, c'est le pire, disons.
Oui.
C'est le pire. Donc, je pense que on ne peut pas... il faut faire le bilan de mai 68, parce qu'il y a ceux qui disent que tout le mal vient de mai 68, ce que je ne crois absolument pas.
Oui.
Et ceux qui défendent mai 68 doivent admettre que, évidemment, la moitié de ce qu'on disait est débile.
Oui.
Mais je ne pense pas que ça vient de mai 68. C'est-à-dire, je pense que les problèmes de l'école en France, ils viennent d'une population qui est difficilement scolarisable. Hein. Bon, c'est pas parce que les enseignants ont abandonné l'autorité, les enseignants n'ont jamais abandonné l'autorité, et c'est vrai que les rapports entre les enseignants et les élèves sont quand même plus normaux qu'ils étaient avant.
Oui.
C'est-à-dire aujourd'hui, les élèves peuvent parler aux profs, il n'y a pas de barrière infranchissable. Alors, ça peut donner lieu à des excès, mais de toute façon, l'idée de revenir à... Moi, j'ai jamais adressé la parole à un prof pendant toute ma scolarité.
Jamais
je vais aller parler à un prof.
Ah bon?
Ben oui. J'étais un élève, ils étaient des profs, bon, voilà. Et donc, dans les hôpitaux, c'est pareil. Les malades étaient, avant 68, les malades, on ne leur parlait pas, ils n'étaient pas bons. En fait, ce qui s'est passé, c'est une américanisation de la vie.
Oui.
En réalité, ce qui s'est passé, c'est ça. C'est des rapports beaucoup plus fluides, où les gens mettent leurs prénoms et tout ça. Bon, hein. Alors, seulement, à l'époque où on a fait mai 68, on n'aurait jamais imaginé qu'on allait vers... vers ces rapports un peu plus libéraux.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Et aujourd'hui, mon regard, il est sur le... Non pas sur ce qui s'est passé, mais plutôt sur le fait qu'il faut être clair sur le fait qu'on ne peut pas dire la même chose. Par exemple, moi, quand j'ai été suspendu, hein, les profs avec qui j'étais copain, on a fait un tract, moi je ne l'ai pas signé. Le tract s'appelait « Nous sommes avec les barbares ». Nous sommes avec les barbares. Alors, il n'y avait pas de barbares comme on entend aujourd'hui. Les barbares, c'était ceux qui se droguaient. Alors, c'était, nous ne ferons pas la chasse aux fous et nous ne ferons pas la chasse aux drogués.
Hein? D'accord.
Bon, mais c'était quand même, nous sommes avec les barbares. Le texte s'appelait, et la presse en avait beaucoup parlé. C'est 24 profs qui disaient, nous sommes avec les barbares. Et qui prétendaient en plus dire, parce qu'ils parlaient de moi, ils disaient, bon, la défense de Sénic comme fonctionnaire, on s'en fout. Hein, bon, c'était clair qu'on n'était pas en train de défendre l'agrégé. Et aujourd'hui, évidemment, je ne dirais pas que je suis avec les barbares, parce que je suis contre les barbares, j'ai peur. Donc,
vous avez peur?
Bah, j'ai peur des gens qui sont réellement des barbares, des gens qui assassinent, qui tapent sur les profs. J'ai peur de ça. Enfin, j'ai peur, c'est mes ennemis, quoi, voilà.
Et est-ce que votre identité juive est redevenue plus importante?
Mon identité juive est revenue beaucoup plus importante, mais je ne saurais pas dire exactement pourquoi. J'en ai parlé hier, parce que hier c'était la Pâque juive, on en parlait avec des amis. Au départ, hein, bon, moi j'étais complètement juif, dans ma famille on était complètement juif. Bon, J'ai épousé une juive. Donc, il n'y avait pas de problème, j'étais pas du tout. Bon. Mais, et dans les études, je disais jamais que j'étais juif. Hein. En France, l'intégration républicaine, on ne veut pas savoir si quelqu'un est juif, protestant, catholique. Donc, on n'a pas à le dire.
Oui, absolument.
On n'a pas à le dire. Bon. Et au sein du militantisme, c'était pareil, on n'en parlait jamais. La première fois que j'en ai parlé, c'était une blague, c'est raconté dans Génération, c'est en 62. C'est quand on croyait que les parachutistes allaient débarquer à Paris en 62, les parachutistes d'Algérie. Et on était en réunion au local de la jeunesse communiste et des étudiants communistes. Et quelqu'un sonne en bas. Et alors je vais voir et je reviens. Et là j'ai fait une blague qui est racontée. Et j'ai dit à Chalit, c'est les bérets rouges, ils demandent les juifs. C'était pas les bérets rouges du tout. Mais, bon, mais sinon on n'en parlait pas du tout. Et puis je pense que là, il y a un phénomène qui est un phénomène d'âge. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un âge où on assume ce qu'on a voulu mettre de côté en tant que jeune homme, quoi.
Oui.
En tant que jeune homme, il fallait surtout ne pas ressembler à mes parents, voilà.
Hein. Oui, d'accord.
Il fallait surtout ne pas être un petit juif discret, qui a peur, etc. Et donc, d'ailleurs, je peux vous dire, la compréhension que je peux avoir, la compréhension au sens positif que je peux avoir pour les beurs, elle est un peu par analogie. Parce que je pense que la manière dont les juifs ont été révolutionnaires était une manière paradoxale d'entrer dans la société.
Mmh. Ah bon ?
Une manière agressive. C'est-à-dire, d'accord, au lieu d'avoir à se cacher, hein, ouais. et finalement, il y a eu une manif où tout le monde criait « Nous sommes tous des juifs allemands
mmh. ».
Bon. Et c'était une manière de pouvoir... régler ses comptes avec le fait que nos parents nous avaient toujours dit de pas parler fort, de pas dire qu'on était juifs, de faire attention que les gens n'allaient pas penser de mal de nous parce qu'on était juifs, tout ça.
Mmh. Bon.
Mmh. Et donc, il y a plusieurs phénomènes concomitants. Et par ailleurs, alors je prolonge votre question, disons, aujourd'hui j'observe évidemment qu'il y a une évolution politique chez les juifs parce qu'ils sont juifs. Il y a une évolution politique de droitisation des juifs.
Oui.
Je parle des juifs ashkénazes. Hein.
Oui.
Les autres, les séfarades, ils sont pas de gauche, disons. Mais chez les juifs ashkénazes qui étaient il y a 40 ans révolutionnaires, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont évolué et qui ont rompu avec ces mouvements qui sont pro-palestiniens, qui sont anti-israéliens, etc.
Est-ce qu'ils sont redevenus pratiquants, vous aussi ?
Non. Non. Non, non. Non, non, moi je suis athée. Athée. C'est-à-dire que un jour ma fille m'a demandé de jeûner pour Kippour. Mm. Mais mes parents ne jeûnaient pas pour Kippour. Mm. Mes parents ne savaient même plus quand c'était Kippour. Hein? Et donc, ça amusait ma fille, donc je me suis mis à jeûner. Donc je jeûne le jour de Kippour. Mais je travaillais aussi, quoi. Comme ça, pour faire quelque chose. Mais dans les gens. Qui ont mon histoire, disons, ou même un peu plus jeune, j'en connais un qui mange kasher, quoi.
Mm.
Un. Mais sinon, il n'y a pas eu de retour aux religieux. Peut-être chez certains enfants de juifs communistes.
Oui.
Il y a eu des gens qui sont redevenus religieux, par réaction contre leurs parents. Mais moi, j'étais pas communiste, donc mes filles n'ont pas pu réagir contre moi.
Mais vos filles sont plus religieuses que vous ?
Non, pas du tout. Absolument pas. Non, elles sont pas du tout religieuses. Non, non. Mes filles ont épousé des non-juifs. Mmh. Elles ont des enfants avec des non-juifs. Et elles voudraient, au contraire. Elles ont comme problème de savoir comment on peut transmettre un peu du passé. Parce qu'on n'a aucun signe.
Mmh.
Chez mes parents et chez les parents de ma femme, il n'y a pas un objet juif. Il n'y a pas une fête juive. Il n'y a rien. Alors bon, moi, ça me gênait pas, parce que mes parents étaient tellement juifs que j'ai pas besoin de, il n'y avait pas besoin de rajouter, quoi. Hein. Mais maintenant, ça va devenir plus problématique avec les enfants de mes filles.
Oui.
Puisque, bon, il y en a un qui s'appelle Jacob, il y en a une qui s'appelle Rebecca, mais à part ce prénom, les autres ne s'appellent pas comme ça, et à part ce prénom, ils n'entendent jamais parler de quoi que ce soit. Et donc,
bon. Ça vous ennuie ?
Ça m'ennuie, oui. Ça m'ennuierait qu'elles ignorent, que mes petits-enfants ignorent qu'ils appartiennent à une histoire.
Mm.
Mais je ne veux pas qu'elles soient religieuses, puisque je ne suis pas religieux, moi.
Mm.
Non, mais moi, je ne suis pas du tout religieux. Je suis pas agnostique.
Non.
Je suis athée.
Athée.
Oui.
Vous avez toujours été athée.
J'étais athée, mais il était pas. Mais mon père était athée, ma mère était. Il venait de parents, il venait de famille parfaitement religieuse. Hein. Mm. Staten, c'était toute la vie était. Mais quand ils sont venus en Europe, ils ont tourné la page et il est rien resté. C'est un phénomène que je comprends même pas. Mm. Ils ont rien gardé. Et un jour, mes parents ont invité une cousine qui vit en Israël, et ils l'ont invitée, elle est arrivée, elle m'a raconté après, elle ne comprenait pas. C'était le soir de Kippour, et elle était invitée à manger. Elle s'est dit, il m'invite à manger pour jeûner, parce qu'on jeûne le soir de Kippour. Mais mes parents ne savaient même pas que c'était Kippour.
D'accord.
Donc, comme on n'a rien, c'est difficile de transmettre, quoi.
Mm.
Bon. Il y a la guerre, ça va, ça c'est bon, facile, parce que comme il en est beaucoup question, hein, à la télévision, etc., on voit sans arrêt les... Bon, donc, quand ils sauront qu'ils viennent de là, je pense que ça suffira pour qu'ils comprennent que, voilà, ils ont une histoire derrière eux.
Mm.
Mais il n'y a pas de... On n'a pas de transmission culturelle, réellement. Bon, moi, j'ai ma théorie là-dessus, ma théorie personnelle que j'ai élaborée, c'est qu'au fond, si je suis juif, ça doit se transmettre.
Mm.
Je suis juif par la manière dont je vis, par la manière dont je pense. Donc, j'ai élevé mes filles telles que je suis, et elles élèveront leurs enfants tels qu'elles sont. Et donc, la judaïté se transmettra, mais les petits-enfants ne sauront pas où elles se situent.
D'accord.
Mais évidemment qu'ils ont le même rapport à l'école. Mes filles avaient le même rapport à l'école que ma femme et moi, et mes petits-enfants ont le même rapport à l'école que nous.
Et pour vous, il est plus important que... Vos filles et vos petits-enfants vous considèrent comme un ancien 68 ans ou comme un juif?
Ah non,
s'il y a une contradiction.
Oui. Moi, je... Non, mais de toute façon, elles ne me considèrent pas comme un ancien 68 ans. Elles savent que je me suis vraiment marré.
Oui.
Bon, mais je ne suis pas... non, pour mes filles, je ne suis pas... Et juif, oui, ça, c'est important, oui. Juif, c'est important, mais c'est vrai, si vous voulez. On ne peut pas le dire, ça, à part, je vous le dis à vous. Mais c'est lié en même temps au positionnement politique.
Oui.
C'est vrai. C'est vrai qu'un juif est plus sensible à la menace qu'il y a sur Israël qu'un non-juif.
Mm.
Et à la haine, et à la haine des juifs qu'il entend dans la bouche des dirigeants islamistes.
Mm.
C'est clair, c'est clair. Et un juif est plus facilement. Il me semble, un juif comprend plus facilement l'intervention américaine,
oui.
Parce que parce qu'on en rêvait en 39, tout simplement,
mmh.
et que c'est ça, et qu'il n'y a pas de raison de laisser un État écraser les gens, parce que ça, c'est ce qui est arrivé aux juifs très très souvent. Donc les juifs s'identifient assez spontanément aux victimes de la terreur d'État. Voilà. Et donc il y a une connexion entre le fait d'être juif et le positionnement politique. Dans le mouvement, dans le petit groupe auquel j'assiste, là, le meilleur des mondes, tout ça, mmh. Il y a une grande proportion de juifs.
D'accord.
Et des protestants.
Et des protestants.
Et des protestants. Ça se tient d'ailleurs chez le pasteur d'un temple protestant.
Ah, d'accord. Donc vous avez beaucoup de sympathie pour les protestants.
Beaucoup de sympathie pour les protestants.
Plus que pour les catholiques.
Plus que pour les catholiques.
Oui.
En France, en tout cas,
oui.
Les protestants ont un destin un petit peu... Quand on est petit à l'école en France, quand on est juif, et qu'on nous parle de la Saint-Barthélemy, ben on pense que c'est des juifs, quoi, les protestants. il y a une assimilation instantanée.
Oui. Oui.
Et puis les protestants ont été beaucoup mieux pendant la guerre, il n'y a pas de problème.
Mm.
Bon, il y a eu des catholiques qui ont été très 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 bien aussi. Hein. Mais disons, l'institution catholique n'a pas été formidable. Les catholiques ont été bien en France, mais pas l'institution. On est plus proche des protestants,
ouais.
Aucun doute.
Bon, je crois qu'on a fait un très bon tour d'horizon. Je vous remercie infiniment.
Je vous en prie. Voulez-vous un autre café?
Oui, je veux bien.
Là, j'enlève mon micro.
C'est terminé.